Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Vous écoutez Dutrisac, Cube Radio.
C'est vendredi, il est 11h35 et Nathalie Ouellette est avec nous, elle est astrophysicienne. Je vous le rappelle, Madame Ouellette, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, j'ai entendu ça, là, le vaisseau Osiris-Rex qui est allé toucher un astéroïde?
Toucher, frapper, ça dépend à quel point tu veux que ce soit violent ou non.
Mais quoi, qu'est-ce qu'il est allé faire sur l'astéroïde?
Donc, c'est une mission super intéressante menée par la NASA, mais je dois dire avec une composante importante canadienne. Et puis, mardi passé, le vaisseau s'est rapproché de l'astéroïde. Il n'a pas atterri sur l'astéroïde, mais s'est rapproché. Il a déployé un bras d'environ 3 mètres de long et le bras est allé percuter, frapper la surface de l'astéroïde pour faire ressortir plein de poussière et récolter un échantillon de l'astéroïde qui va retourner sur la Terre en 2023.
Et ça fly à quelle vitesse, un astéroïde?
Un astéroïde, ça dépend un peu c'est où, mais c'est plusieurs centaines ou milliers de kilomètres par heure. Donc, ça va vraiment vite quand même. Donc,
alors, comment tu fais?
Une procédure difficile.
Ben, c'est ça. Comment tu fais pour que le vaisseau Osiris arrive, qu'il soit concordant à l'astéroïde?
Une chose qui est bien, au moins avec l'astéroïde, il va vite, mais il va toujours à la même vitesse. Donc, on arrive avec notre vaisseau, on commence un peu à avoir une interaction gravitationnelle avec l'astéroïde. Donc, au moins, les deux sont attirés l'un vers l'autre, ça l'aide un peu. Mmh. Mais tant que le vaisseau garde une vitesse qui matche celui de l'astéroïde, c'est correct, ça peut fonctionner. L'astéroïde, au moins, il ne change pas de vitesse ou de direction.
OK. Mais ça, il a été lancé quand, ce vaisseau-là, Osiris? Là, c'était prévu depuis combien de temps?
Ça a été lancé en 2016. Donc, comme toutes les missions qu'on envoie des choses dans l'espace, c'est pas du jour au lendemain qu'on arrive à notre cible. Et cet astéroïde-là, il est pas si loin que de nous, en fait. C'est pas un astéroïde qui se retrouve dans la ceinture d'astéroïdes qui se retrouve entre les orbites de Mars et Jupiter. C'est plutôt... Donc, l'astéroïde, on n'arrête pas de dire l'astéroïde. Son nom, c'est Bennu. On va l'appeler par son petit nom.
Ben oui.
Ouais, c'est ça, Bennu. À sa plus proche approche de la Terre, il est environ à 20 000 kilomètres. Donc, c'est pas si pire que ça. Mais son orbite autour du Soleil change. Des fois, ça se rapproche plus de Vénus. Des fois, ça se rapproche plus de la Terre. Mmh. Donc, il faut quand même faire des manœuvres un peu délicates pour essayer de genre le spotter et s'aligner vers lui. Donc, ça l'a quand même pris un petit bout de temps. Mais Osiris Rex, le vaisseau, est proche de Bennu. Ça fait déjà quand même un petit bout de temps, environ un an. Mais on faisait autre chose. On voulait pas le frapper immédiatement. Mais c'est cette semaine qu'on a décidé de passer à l'attaque.
Et ça donne quoi tout ça, Nathalie?
Donc, ça, c'est super intéressant. On peut se demander, mais pourquoi on se promène pour frapper un astéroïde? Et je vous invite, en fait, la NASA a fait un super beau vidéo qui montre le point de vue du vaisseau spatial, le bras qui s'étend et puis qui frappe la surface. Donc, c'est quand même cool si vous voulez aller le voir. Mais la raison pourquoi ça nous intéresse, les astéroïdes, c'est parce que c'est un peu comme des capsules historiques des tout débuts du système solaire.
OK. Ça nous dit quoi?
C'est ça. Donc, le système solaire, ça fait environ 4,6 milliards d'années que ça roule. Nous, on est sur la Terre. On continue avec notre petit bon train. Mais il y a encore beaucoup de mystères sur le système solaire. Comment les planètes exactement se sont formées? Comment est-ce que le système solaire a évolué avec le temps? Comment la vie, est-ce qu'elle est apparue sur la Terre? On cherche la vie extraterrestre, mais on ne sait pas encore exactement comment la vie a commencé sur la Terre. Mais les planètes, elles, au cours de leur formation, ont beaucoup changé. Ils ont été percutés par des astéroïdes, il y a de l'érosion, il y a plein de changements. Donc, c'est dur de voir exactement qu'est-ce qui se passe à travers l'histoire du système solaire en regardant une planète qui change. Mais les astéroïdes, eux, ils existent depuis les tout débuts. C'est un peu comme les blocs de Lego qui sont restés, les restants du système solaire au tout début. Donc, c'est des capsules historiques. Si on peut prendre les échantillons et regarder qu'est-ce qu'il y a là-dedans, c'est quoi les composantes des astéroïdes, ça nous dit qu'est-ce qu'il y avait au début du système solaire quand tout a commencé. Donc, c'est pour ça qu'on est vraiment intéressé d'avoir l'échantillon revenir sur la Terre pour que les scientifiques, incluant des scientifiques canadiens, puissent les examiner.
OK, mais quand tu dis un vaisseau, là, le vaisseau Osiris-Rex, Nathalie, c'est pas un satellite, là, c'est un vrai vaisseau?
Non, c'est un satellite.
C'est un satellite?
On dit vaisseau, mais non, il n'y a pas comme un petit siège où tu peux t'asseoir avec un volant. C'est comme un genre de satellite. Si tu regardes une photo, ça va ressembler comme n'importe quel satellite. Mais ça la donne que lui, il a un bras de 3 mètres qui est utilisé pour frapper des astéroïdes.
Avec un gant de boxe au bout?
Avec une genre de petite patte plate.
Ah oui?
Pour genre vraiment faire une tape sur l'astéroïde.
OK, fait que là, il ramasse la cochonnerie, il ramasse la poussière, de la garnotte, puis là, il va ramener ça sur la Terre?
Oui, exactement. Donc, il a frappé pendant environ 6 secondes, puis de la poussière, de la garnotte, comme tu dis, est allée dans les airs, et puis la petite patte a récolté quelques centaines de grammes de matériel qu'il va rapporter sur la Terre.
100 grammes, sacrément, ça coûte cher pour 100 grammes de garnottes?
Oui, c'est pas la seule chose qu'il fait. C'est quelques centaines. On n'est pas sûr exactement. On espérait pour au moins 60 grammes. Ça pourrait être jusqu'à 2000 grammes. Donc, quand même, 2 kilogrammes, c'est pas trop pire. C'est quelque chose qui est super, super loin.
Ouais.
Mais tout ça va être divisé en plein d'équipes scientifiques, incluant des Canadiens, comme j'ai mentionné. Et eux vont commencer à analyser ça quand ça va atterrir dans le désert de l'Utah aux États-Unis en 2023.
OK, en 2023. Mais là, est-ce qu'on va découvrir de nouveaux métaux? Qu'est-ce qu'on peut découvrir?
On va découvrir pas nécessairement des nouveaux métaux, ça serait très très surprenant si on découvrait quelque chose de complètement autre que ce qu'il y a déjà dans le tableau périodique. Non, ça serait plutôt des composantes, peut-être des traces d'eau, des acides aminés, des choses comme ça qui ont peut-être mené à l'apparence de la vie sur la Terre. Donc, on n'est pas sûr exactement. Bennu, c'est un astéroïde qu'on dit carbonacé, donc il y a beaucoup de carbone à l'intérieur, pas nécessairement beaucoup de glace, mais on va vraiment savoir la réponse, ça va revenir.
OK. Avant qu'on se quitte, Nathalie Ouellet, le mythe de la semaine porte sur le système solaire.
Oui, donc le système solaire, moi j'aime beaucoup en parler parce que tout le monde sait un peu qu'est-ce que c'est un système solaire, parce que c'est déjà inclus dans le programme éducatif au primaire, au secondaire au Canada. Mais si je te demande de te remettre à l'école quand tu étais plus jeune, est-ce que tu imagines un peu dans ta tête le diagramme du système solaire que tu as peut-être regardé dans tes livres?
Oh boy, ça fait un bout, là, tu m'en demandes. Mais il me semble qu'il y avait le soleil au centre de tout ça.
C'est ça, il y avait le soleil au centre, puis là, il y a toutes les planètes en queue-leu-leu, vraiment proches l'une de l'autre, toutes alignées ensemble. Puis c'est souvent ça qu'on voit comme photo du système solaire.
Ouais.
C'est sûr que c'est beau, c'est joli, mais ça n'a pas du tout l'air de ça, en fait, le système solaire. Si on voulait vraiment montrer le système solaire à l'échelle, faudrait avoir un vraiment gros livre pour distancer les planètes assez l'une de l'autre. Donc, on a tendance à penser que le système solaire est comme tout plein de roches partout. Essayer de te promener dans la ceinture d'astéroïdes, c'est vraiment difficile. Tu vas toujours te faire frapper. Mais la ceinture d'astéroïdes, qui est la plus grande concentration d'astéroïdes dans le système solaire, si on les prenait tout ensemble, ça ferait pour peut-être 4% de la masse de la Lune. Donc, il n'y en a pas tant que ça de roches.
Okay.
Non. Et puis, en moyenne, la distance entre deux astéroïdes dans la ceinture, c'est 1 million de kilomètres.
OK.
Fait que, c'est vraiment distancé.
Il y a plus de pollution autour de la Terre qu'il y a d'astéroïdes, finalement.
Même ça, il y en a quand même beaucoup, puis c'est comme un grand enjeu et ça devient de plus en plus grave, comme on a déjà mentionné. Mais l'espace, c'est vraiment gros. Je pense que le monde ne réalise pas à quel point c'est gros, l'espace. Donc, pour te donner un peu un indicatif, puis si jamais tu veux faire une balade en voiture, c'est très distancié socialement, t'interagis avec personne, donc c'est une belle balade de fin de semaine.
Mm-hmm.
Au Mont Mégantic, il y a une petite balade que tu peux faire. Tu commences au sommet de la montagne et puis l'observatoire du Mont Mégantic, c'est le soleil. Puis c'est vraiment une escapade à l'échelle. Donc, tu as le soleil, puis là, si tu descends d'environ 500 mètres sur la route de la montagne, tu arrives à Mercure, qui est toute petite à côté. Puis là, tu continues à un autre kilomètre, là, tu arrives à la Terre. Puis là, si tu veux arriver à Pluton, qui est vraiment, vraiment la planète naine la plus loin du soleil, il faut que tu te rendes à Sherbrooke, à 57 kilomètres du soleil. Donc, là, ça te donne vraiment une idée à quel point l'espace, c'est vide. Il y a tellement de vide dans l'espace.
Ah oui, c'est fou, hein? Ça, c'est intéressant là, d'essayer de juxtaposer ça sur la marche pour comprendre l'espace dans l'espace qu'on réalise pas, parce que c'est vrai que dans les livres, quand j'étais petit, il était tout une boule derrière l'autre, pis ça avait l'air bien coordonné, bien enligné, mais la réalité, c'est pas ça.
Non, c'est beaucoup plus vide et puis ils sont très rarement alignés toutes en une ligne.
Parfait. Nathalie Ouellette, merci. On se reparle la semaine prochaine.
C'est bon, merci.
Au revoir.